Carrefour de l'Europe.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The hub of Europe.
Punto de encuentro de Europa.
Ευρωπαϊκές σκληροβάνια.
Daniel Desesquiel.
Rebonjour, rebonsoir. 62 millions d'Allemands sont en train de voter pour élire les députés du Bundestag qui éliront à leur tour le chancelier ou la chancelière. Les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 18h, heure de Berlin, c'est aussi l'heure de Paris. Tous les sondages le prédisent, Angela Merkel est la grande favorite de ce scrutin. 4 ans de grande coalition ont mieux réussi à la chancelière qu'à son partenaire et rival social-démocrate, Frank-Walter Steinmeier. La question qui domine en ce jour d'élection, c'est avec qui Angela Merkel gouvernera-t-elle demain? Les libéraux ont sa préférence, mais si les socialistes du SPD résistent mieux que prévu, la grande coalition pourrait se poursuivre. À suivre également le score de Die Linke, le parti à gauche de la gauche qui apparaît de plus en plus incontournable dans le paysage politique outre-Rhin. Sans oublier les Verts, les Grünen, qui ne sont plus les troubles faits qu'ils ont été dans les années 90. Quelle coalition gouvernera l'Allemagne demain? Quelle politique mènera la première puissance européenne? Nos invités vont nous aider à comprendre les enjeux de ce scrutin. Ernst Hillebrand, bonjour, Guten Tag.
Bonjour.
Vous êtes le directeur à Paris de la fondation Friedrich Herbert Stiftung, une fondation proche des sociaux-démocrates du SPD, on peut le dire?
Oui, on peut le dire.
Louis-Marie Collet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et plus particulièrement au CERFA. Et le CERFA, c'est le comité d'études des relations franco-allemandes. Wolfram Vogel, Guten Tag, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le représentant à Paris de la Deutsche Französische Institute, autrement dit l'Institut franco-allemand, mais vous êtes en ligne avec nous de Ludwigsburg en Allemagne, là où siège la DFI. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, et je vais vous la poser à vous, Ernst Hillebrand, c'est pourquoi après 4 ans d'un gouvernement de coalition CDU-SPD, c'est-à-dire la grande alliance entre les conservateurs et les sociaux-démocrates, pourquoi c'est la chancelière Angela Merkel seule qui tire profit de l'exercice du pouvoir? C'est en gros 35% des intentions de vote pour Angela Merkel et seulement 25% pour son rival du SPD, le vice-chancelier Frank-Walter Steinmeier. Pourquoi?
Difficile à dire, mais je crois que ce sont deux facteurs qui jouent essentiellement. D'abord, c'est le style personnel d'Angela Merkel qui a su s'imposer comme une figure dominante sur le plan politique de l'Allemagne avec un style calme, équitable, anticharismatique d'une certaine manière. Et paraît-il qu'elle s'appelait beaucoup aux Allemands aujourd'hui.
Vous avez l'air surpris que ce style anticharismatique plaise beaucoup aux Allemands en ce moment.
Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est quand même un développement, une évolution que vous pouvez voir dans pas mal de pays. Quand vous regardez, vous avez quand même des anticharismatiques un peu dans plusieurs pays, comme aux Pays-Bas, dans le pays nordique. C'est plus le style de politique flamboyant, style Gerhard Schröder, Joschka Fischer. Mais c'est dans des crises, paraît-il, qui sont un autre style qui est préféré, au moins dans une partie de l'Europe. Donc, je crois que c'est un facteur. L'autre facteur, fort probablement, est à chercher dans les résultats de la politique de la Grande Coalition, où malgré tous les efforts, disons, le SPD n'arrivait pas à imposer vraiment son agenda politique. Il n'arrive pas à améliorer substantiellement, disons, la situation économique et sociale de la majorité de salariés en Allemagne. Et je crois que ça joue contre le parti au moment, parce que ça mène à une sorte de démobilisation d'une partie de son électorat.
Alors, Wolfram Vogel, vous êtes en Allemagne là pour quelques jours, vous aviez repris contact avec les réalités du pays. C'est quoi le secret d'Angela Merkel?
Alors, il y a un troisième facteur, que dans chaque démocratie, le chef du gouvernement est beaucoup plus visible dans les médias que le vice-chancelier ou celui qui mène le deuxième parti dans le pays. Elle reste quand même chancelière et on parle toujours du bonus du chancelier, du Kanzlerbonus. Et c'est comme ça, elle avait jeu facile de se présenter en tant que chancelière pour un deuxième mandat. Et par la force des choses, le vice-chancelier doit d'abord démontrer qu'il sera le meilleur chancelier. Donc une bonne partie de l'enjeu réside en cela.
Alors curieusement, on ne sait pas grand-chose d'Angela Merkel. Hein. Elle est assez secrète. Alors qui est Angie? Vous en savez un peu plus, ou Louis-Marie Collet?
Alors je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer Angela Merkel ni de la connaître intimement, mais elle a un profil assez intéressant puisqu'elle est, il faut le rappeler, originaire d'Allemagne de l'Est. Et elle a réussi quand même à s'imposer au sein du parti de la CDU, qui a des forts barons, plutôt des gens installés en Allemagne de l'Ouest. Et donc ce positionnement un peu particulier par rapport à son parti rejaillit aussi sur son mode de gouvernement, où elle a plutôt une préférence pour se positionner au-dessus des débats. Et dans son rôle de chancelière, justement, elle a très bien su jouer de cette position, de cette fonction, au-dessus des débats et au-dessus des empoignades politiques. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'elle a fait campagne, moins comme un chef de parti, mais vraiment comme une chancelière qu'il convient de réélire et qui assure une continuité du pouvoir.
Alors justement, c'est une question qui s'est longtemps posée en Allemagne au lendemain de la réunification. Est-ce qu'à l'Ouest, on la considère toujours comme une Allemande de l'Est? Ou est-ce que cette question entre les Allemands de l'Est et les Allemands de l'Ouest est maintenant dépassée? Paul Frampfegel.
Moi, je dirais non. Déjà, en 2005, tout le monde s'est étonné de deux faits. Premièrement, elle n'a pas mentionné dans la campagne de 2005 qu'elle est premièrement une femme, qu'elle est deuxièmement de l'Est. Donc, ça, c'était quelque chose qu'on lui avait reproché, en fait. Elle n'a pas vraiment tiré parti, elle ne voulait pas en tirer parti du fait qu'elle soit une femme, la première chancelière de l'Allemagne, et deuxièmement, qu'elle vienne de l'Est. Elle a toujours dit, mais je suis née à Hambourg. Donc elle est née là-bas, mais puisque sa famille est partie à l'Est, elle a grandi dans la ex-RDA, puisqu'elle voulait se positionner en tant que chancelière de tous les Allemands, et à mon avis, elle a eu raison de le faire.
Le débat Est-Ouest, il est toujours d'actualité pour vous, Ernst Hildebrandt?
Moi, ça joue un rôle, mais ça n'a plus l'actualité et l'importance qu'il y a 10 ans, quelque chose comme ça. Le fait qu'Angela Merkel aujourd'hui est chancelière, évidemment, a joué un peu dans le sens d'une réconciliation, de l'impression que ce pays est vraiment unifié aujourd'hui. Mais je voulais seulement noter une petite chose sur la carrière politique d'Angela Merkel. Monsieur Vogel, il a parfaitement raison. Dès les débuts de sa carrière, c'est plutôt toujours positionné comme quelqu'un qui n'est pas la représentante de l'Est, mais une politique comme les autres, quoi, au sein de ce parti. Donc un refus de jouer le rôle de porte-parole de l'Est, qui était crucial pour son montée jusqu'au sommet de la structure étatique.
Alors Louis-Marie Calais, 4 ans de grande coalition, un bilan gouvernemental, on peut dire que cette grande coalition n'a pas démérité.
Non, elle a plutôt bien fonctionné sur un certain nombre de débats, elle a permis de faire avancer des réformes importantes dans le prolongement de ce qui avait été fait par le précédent gouvernement SPD et Vert. Notamment, elle s'est attaquée à la réforme des retraites, en permettant de repousser l'âge de la retraite de 65 ans à 67 ans. Ce qui, en passant, pose un problème pour le SPD, puisque les syndicats allemands lui en ont beaucoup voulu, et ce qui explique aussi les liens qui sont distendus entre le SPD et les syndicats. Et deuxième réforme, paradoxalement, les deux partis ont réussi aussi à faire passer une réforme fiscale importante, qui voyait d'une part une augmentation de la TVA et d'autre part aussi une augmentation du taux maximal d'imposition, qui était une mesure promue par le SPD. Donc la grande coalition a permis quand même de faire des avancées sur des problèmes importants de politique intérieure. Après, elle a montré aussi ses limites, notamment en politique étrangère, où la ligne de l'Allemagne n'a pas été très claire ou pas très offensive, en partie justement par la rivalité entre la chancelière et le vice-président Frank-Walter Steinmeier, qui était aussi ministre des Affaires étrangères. Donc une ligne un peu ambiguë qui n'a pas permis, par exemple, à l'Allemagne de faire avancer son positionnement comme un futur membre du Conseil de sécurité de l'ONU, qui était dans le programme de la Grande Coalition.
Alors néanmoins, en ce qui concerne la présence des troupes allemandes en Afghanistan, il y a un accord entre la CDU et le SPD.
Oui, il y a toujours un consensus entre les deux grands partis, qui est critiqué par les autres partis d'ailleurs.
Et la crise, l'Allemagne l'a assez bien gérée. Il y a eu des tentations en Allemagne de gérer la crise de manière germano-allemande, plutôt qu'européenne, mais au bout du compte...
Au final, le tandem a bien fonctionné, en particulier le tandem Angela Merkel et Peer Steinbrück, qui est le ministre SPD des Finances, qui ont défendu la même ligne et qui donc ont présenté un front uni. Ce qui d'ailleurs pose un problème pour les élections, puisque le SPD a eu du mal à se démarquer de son partenaire de coalition. Partenaire et à la fois adversaire, c'est une ligne assez difficile à défendre dans une campagne.
Alors justement, partenaire et adversaire, Frank-Walter Steinmeier, qui personnifie aujourd'hui le SPD, on le présente comme un honnête technocrate de la social-démocratie. C'est comme ça que vous le voyez, Ernst Hildebrandt?
Oui, c'est sa réputation, disons, et sa carrière était toujours été la carrière d'un autre fonctionnaire, en réalité. Donc il n'a jamais cherché une place dans la première ligne de la politique, jusqu'à il y a 2 ans, où pense déjà être ministre des Relations extérieures, c'était la première ligne, mais la toute première ligne, évidemment, c'est venu ce mois avec le problème interne du SPD de trouver un candidat pour le poste de chancelier pour ces élections d'aujourd'hui. Donc, c'est ce mois-là qui était vraiment poussé aux toutes premières places, si vous voulez, dans l'hierarchie politique du SPD. Mais sa carrière politique était la carrière essentielle d'un fonctionnaire qui a géré derrière les coulisses la politique d'une manière extrêmement efficace.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il est devenu numéro un du SPD à l'issue de son plein gré, comme on dit en français. Hein, Louis Marigolet, c'est un peu ça?
Oui, il a été le chef de l'administration de la chancellerie avec Gerhard Schröder, donc il était déjà parfaitement au fait de toutes les affaires de politique intérieure, de politique étrangère. Et il est tout à fait compétent, mais ce n'est pas un homme politique qui mène une campagne, qui a été élu et qui manque sans doute un peu de ce charisme pour mobiliser son électorat.
Mais c'est aussi le cas d'Angela Merkel, comme on le disait à l'instant.
Angela Merkel, elle a vraiment une carrière politique, mais une carrière d'appareil, puisqu'elle a gravi tous les échelons de la CDU, justement en ne s'affichant pas en opposition avec le parti traditionnel plutôt en Allemagne de l'Ouest. Mais elle a vraiment une carrière politique où elle a été élue, où elle a occupé des postes de ministre. Et donc les deux profils de ce point de vue-là se distinguent quand même assez nettement.
Carrefour de l'Europe.
Alors, Wolfram Fengel, 10 points de retard du SPD, des sociaux-démocrates par rapport à la CDU, les conservateurs. Donc les sociaux-démocrates sont en grande difficulté. On peut remarquer que c'est un peu le cas partout en Europe. Hein. Alors, selon vous, c'est la conséquence de la gestion des années Schröder, où les socialistes ont mené une politique que n'aurait pas renié la droite, ou est-ce que c'est une tendance au déclin général de la social-démocratie en Allemagne, comme en France, par exemple? On a pu le remarquer un petit peu partout.
Je crois observer des tendances lourdes. Pendant les années 90, on a dit que ça sera la décennie de la social-démocratie parce que ce n'est que la social-démocratie qui pourrait arriver à maîtriser la mondialisation. Une décennie plus tard, il s'est avéré que de plus en plus de pays de l'Union européenne votent à droite. Donc c'est un peu cela qu'on reproche au Parti socialiste en France d'aujourd'hui, de ne pas avoir trouvé un discours adapté à la mondialisation d'aujourd'hui. Le même reproche est fait aux sociaux-démocrates en Allemagne et aussi dans d'autres pays membres de l'Union européenne. Par rapport à la chancelière, c'est vrai, elle caracole en tête des sondages depuis plusieurs mois. Par contre, il faut dire qu'il n'y a aucune différence par rapport à 2005. En 2005, elle a été donnée gagnante largement. Les instituts de sondage lui ont donné 43-44%. Elle a fait la grosse gaffe de dire la vérité, que les impôts vont être augmentés. Et elle a été punie par les électeurs, donc elle est arrivée en 2005 à 35,2%.
Alors cette année, elle a tout compris, elle s'est bien gardée de faire l'erreur. Hein.
Elle a tout compris, les sociaux-démocrates, eux, aussi, de ne pas trop prendre position par rapport au contenu d'un quelconque programme, d'une quelconque politique. Si on y ajoute le grand paradoxe que le SPD ne puisse pas profiter de la crise économique, en France non plus d'ailleurs, ça donne cet écart de 10 à 12%.
Alors il faut dire, Anne-Sine Le Brand, que si on regarde un peu les programmes des deux principaux partis, CDU et SPD, ils sont assez proches. Hein, si on accepte un peu le nucléaire, comment gérer les centrales nucléaires, est-ce qu'on les arrête maintenant ou dans peu de temps, soit on les laisse vivre le plus longtemps possible, ou sur le salaire minimum, il n'y a pas grand-chose qui différencie le SPD de la CDU sur le plan du programme électoral et de gouvernement.
Oui, c'est vrai. Si on regarde les propositions électorales, c'est stupéfiant de voir comment les positions se ressemblent entre le SPD et le CDU. Mais c'est pas le tort, si vous voulez, du SPD. Le SPD a maintenu une certaine ligne et qui a choisi à peu près un an et demi pour se positionner un peu plus vers une politique plus sociale, plus socialement, économiquement équilibrée. Mais c'est le CDU qui a quand même changé un peu son ton, ce qui, comparé aux élections de 2016, qui s'est social-démocratisé comme lui reproche la presse allemande et qui aujourd'hui suit un peu les SPD dans les choix de thématiques mais aussi les propositions qu'ils font avec toujours certaines différences. Par exemple, je crois que c'est une question primordiale et cruciale, la question du salaire minimum.
Qui n'existe pas en Allemagne.
Carrefour de l'Europe. Daniel Desesquelles.
Carrefour de l'Europe, 62 millions d'Allemands sont en train de voter. Alors, en Allemagne, il n'y a pas que les sociodémocrates et les conservateurs. Il y a aussi Die Linke, le parti de la gauche, comme on le dit. Die Linke, Louis-Marie Collet, c'est une irruption de plus en plus forte dans le paysage politique allemand. Alors, il faut expliquer un petit peu les anciens communistes de l'ASED de l'Allemagne de l'Est et des dissidents des sociodémocrates emmenés par Oscar Lafontaine, un ancien leader social-démocrate, avec des intentions de vote assez élevées, supérieures à 10%.
Alors ça reste à vérifier puisque Die Linke pour l'instant a fait des bons résultats essentiellement dans les ex-Länder d'Allemagne de l'Est et participe au gouvernement dans plusieurs Länder. Mais au niveau fédéral, l'échéance est importante pour Die Linke pour savoir si enfin le parti peut dépasser la barre des 10% et s'afficher comme un parti vraiment allemand au niveau fédéral. Donc là nous restons un peu dans l'attente de voir ces résultats effectifs. Die Linke reste un parti très particulier justement dans cette association assez difficile, contrairement à ce qu'on peut penser à l'extérieur, entre les déçus du SPD, notamment en Allemagne de l'Ouest, menés par Oscar Lafontaine principalement, et l'ancien parti en effet SED qui recollecte encore l'électorat vieillissant des fonctionnaires de l'ancienne RDA qui se sont transformés dans un parti qui maintenant s'appelait le PDS et qui s'est associé justement à ces transfuges pour former Die Linke en 2005.
Alors, il faudra former une coalition à l'issue de ces élections, et le SPD a déjà dit qu'il n'envisageait pas, quel que soit le résultat de ces élections, de gouverner avec Die Linke. Le SPD préfère a priori gouverner avec la CDU ou les Verts, dont on n'a pas encore parlé, plutôt qu'avec Die Linke. Pourquoi, Ernst Hildebrand?
Essentiellement, je crois, ce refus d'entrer dans une coalition avec Die Linke pour l'instant est lié à la question des politiques extérieures. On juge au sein du SPD que Die Linke a des positions complètement irresponsables sur le plan international. Quitter l'OTAN, un retrait immédiat des troupes allemandes de l'Afghanistan, c'est jugé par le SPD comme des positions qui ne sont pas du tout acceptables. Et comme Die Linke fait un préalable à ces questions-là, ça me paraît exclu qu'il y ait, après ces élections, une alliance avec Die Linke. C'est un peu un épouvantail qui était agité par le CDU, qui était agité pendant la campagne, mais je croyais que ça n'a aucune base réelle dans la politique actuelle.
Louis-Marie Collet, vous vouliez ajouter quelque chose.
Die Linke n'apparaît pas encore aux yeux des Allemands comme un parti qui peut participer à un gouvernement. Il reste un parti d'opposition, notamment sur des questions importantes de politique étrangère, où on voit vraiment la crédibilité d'un parti. Donc Die Linke doit encore prouver qu'au niveau des Länder, il est capable d'être un parti gestionnaire de gouvernement crédible, avant d'arriver au niveau fédéral. Et c'est vrai que l'aspect épouvantail d'une alliance entre les socialistes et les anciens communistes est régulièrement brandi par la droite et par les FDP comme un repoussoir. C'est lié à l'histoire allemande, c'est lié à l'entre-deux-guerres et à toute la suite de l'histoire allemande.
Donc Die Linke est appelé encore à rester un parti d'opposition pendant de nombreuses années, semble-t-il.
Au moins au niveau fédéral.
Au niveau fédéral.
Ce qui n'est plus le cas au niveau des Länder.
Alors on n'a pas encore parlé des Verts, et c'est vrai qu'on ne les a pas beaucoup entendus durant cette campagne. Ils étaient les troubles faits des années, on va dire 90. Hein. La montée en puissance a été lorsqu'ils sont entrés au gouvernement avec les sociodémocrates, avec la personnalité emblématique de Joschka Fischer. On ne les entend plus. Pourquoi? Ils n'ont plus de leader, plus d'idées. Wolfram Fögel?
Si, si, ils ont un leader, ils ont même des leaders, ils ont aussi des idées, mais ils ont dû constater que sur le nouveau échiquier du système de partis, on en aura en avant un système de 5 partis, ils seront très probablement le grand perdant, du moins de cette élection de 2009. Parce que les deux grandes alternatives pour ces élections-là, c'est soit une reconduction de la grande coalition, soit une coalition dite noire-jaune entre les chrétiens démocrates et les libéraux. Puisque les libéraux ont exclu de participer à un gouvernement qui sera formé entre le SPD et les Verts n'ont plus l'alternative. Puisque les Verts ont également exclu de faire une coalition avec les chrétiens démocrates, du moins au niveau national, ils se sont mis à l'écart eux-mêmes.
Vous avez mentionné les libéraux, on ne les a pas encore cités. Leur leader s'appelle Guido Westerwelle. Il n'est pas très très connu en France, il peut probablement en dehors de l'Allemagne. Eux aussi sont en pleine forme. Hein. Ils sont crédités d'environ 14% des suffrages, ce qui peut leur permettre d'espérer de gouverner avec la CDU d'Angela Merkel. C'est un peu le gouvernement de rêve pour Angela Merkel, gouverner avec les libéraux. Vous faites la moue, Louis-Marie Collet.
Le gouvernement de rêve, c'est du moins ce qu'affichent les FDP et la CDU-CSU. C'est en effet effet un gouvernement qui rappelle les années précédentes, les grandes années de la RFA, où un grand parti, le SPD ou la CDU-CSU, s'alliait avec le FDP, qui était le faiseur de gouvernement à l'époque.
Le parti pivot incontournable.
Le parti pivot incontournable, qui n'est plus de fait, puisqu'il y a d'autres partis, les Verts, en effet, le Die Linke, qui désormais sont crédités de plus de 10% des voix. L'idéal est affiché, mais Angela Merkel est plutôt, comme on a évoqué, quelqu'un qui préfère jouer sur une coalition des contraires, être au-dessus des débats, mener son gouvernement sans forcément de tiraillement. On ne sait pas très bien justement quel sera le programme de ce nouveau gouvernement FDP, CDU-CSU, s'il voit le jour, sachant que le FDP est absolument contre toute baisse des impôts, que la CDU est beaucoup plus nuancée sur ces aspects-là. La CSU, la partie bavaroise du Parti chrétien-démocrate, elle aussi a un discours un peu plus populiste et veut se démarquer du FDP. Donc cette alliance n'est pas aussi évidente et ne sera pas aussi évidente à mener pour Angela Merkel.
Alors, Ernst, on voit bien l'intérêt que Angela Merkel et la CDU ont à gouverner avec le SPD, puisqu'ils progressent dans le cadre de cette grande coalition. On ne voit pas trop l'intérêt du SPD, des sociodémocrates, de continuer cette grande coalition, puisqu'elle ne leur réussit pas, en tout cas, d'après les sondages, c'est évidemment les électeurs allemands qui auront le dernier mot. Une nouvelle grande coalition SPD-CDU, c'est ce qui vous paraît à vous le plus probable ?
Attendons les résultats. Hein. On ne peut pas les dire, mais de toute manière, les SPD n'a jamais dit qu'elle souhaite continuer ses grandes coalitions. On a dit qu'on préfère de gouverner dans une coalition de feu de trafic, comme on dit, donc avec le Vert, avec le Libéraux. Mais si ce n'est pas faisable, ce qui peut être possible, évidemment, le SPD va opter, déjà pour responsabilité politique, pour la continuation d'une grande coalition avec Angela Merkel comme chancelière.
Oui. Damolou, Marie-Collet, les défis de ce prochain gouvernement, quel qu'il soit, relancer la croissance, essayer de retrouver l'équilibre budgétaire qui est cher dans l'état d'esprit des Allemands.
Oui, paradoxalement, le prochain gouvernement aura des grosses tâches sur les bras. Il n'est pas dit que le chômage ne continue pas d'augmenter, puisque les mesures qui ont permis de recourir au chômage partiel arrivent à terme à l'automne, et donc on risque de voir une montée du chômage en Allemagne qui posera des problèmes importants au niveau social. La question de la retour de la croissance, quelles mesures utiliser? Certains veulent baisser les impôts, notamment le FDP, mais la plupart des économistes estiment que ce sont des mesures illusoires. La CDU-CSU, elle, prône un retour à l'équilibre, et d'ailleurs qui est inscrit dans la Constitution, avec un retour en 2013 à l'équilibre budgétaire. Donc des défis importants. Paradoxalement, apparemment, un certain nombre d'Allemands estiment que face à cette crise, face à une situation sérieuse, une grande coalition ne serait pas finalement un si mauvais choix, puisqu'elle permettrait d'arriver à des consensus beaucoup plus larges et de faire passer des mesures importantes.
Ce sont les électeurs allemands qui auront le dernier mot. Je vous donne d'ailleurs rendez-vous tout à l'heure, 20h10, heure de Paris, pour un carrefour de l'Europe spécial élection allemande, avec les résultats, analyse, débat, commentaires tout à l'heure, une heure consacrée aux élections allemandes. Ernst Hillbrandt, Fondation Friedrich Ebert Stiftung, Wolfram Vogel, Institut Franco-Allemand, Louis-Marie Collet, IFRI, merci à tous les trois d'avoir été au carrefour de l'Europe. Merci à Camille Delors, Jean-Marc Munier, Thomas Ferrière, qui ont préparé ou réalisé cette émission. Pour nous retrouver sur internet, RFI.fr, onglet radio, ou plus simplement, tapez Carrefour de l'Europe, RFI, sur votre moteur de recherche. Et là, sur la page de l'émission, les références de nos invités, leur site, leur blog, la vidéo du buzz, les archives de l'émission et la possibilité de vous abonner gratuitement au podcast de l'émission. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, 20h et un nouveau Carrefour de l'Europe spécial élection allemande. On se quitte en chanson, comme d'habitude, et c'est la reprise d'une chanson française de M, de Mathieu Chédid, par Mia, une chanteuse allemande très en vogue. En français, la chanson s'appelle « Je dis M », en allemand « Ich sage Liebe ».
Cette émission vous a été proposée en partenariat avec l'Association européenne de radio, Euranet.